Radio Okapi.
Le journal grâce à Mzati Massanzi. À la une, le ministre du Commerce extérieur attire l'attention sur la farine de maïs contaminée par une substance toxique en provenance de la Zambie. Julien Paluku met aussi en garde tout contrevenant. Les enseignants et le gouvernement congolais se mettent d'accord pour une rentrée scolaire effective et apaisée le lundi 2 septembre. C'est ce qui ressort des négociations des bibois entre les deux parties. L'invité de la rédaction ce soir est le coordonnateur du programme de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC Star Est. Steve Singida nous parle de l'exécution de ce programme dans la province de l'Ituri. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le ministre du Commerce extérieur confirme les informations préoccupantes faisant état d'une présence de la farine de maïs en provenance de la Zambie contaminée par l'aflatoxine, substance toxique présentant un danger pour la santé humaine et animale. Julien Paluku Kaongya l'a dit dans un communiqué publié ce dimanche. Les mesures préventives prises pour préserver la population du danger sont notamment les sanctions exemplaires de tout cas d'importation frauduleuse sur le territoire national de cette farine allant de la saisie à la destruction aux frais du contrevenant. Le ministre du Commerce extérieur réitère son appel au respect de la réglementation sur la circulation des marchandises et invite une fois de plus la population congolaise à bannir la fraude sous toutes ses formes afin de préserver la nation des drames qui en découleraient. D'autres détails avec vous, Jacques-Yves Molima.
Selon le ministère du Commerce extérieur, les différentes marques de la farine contaminée à l'aflatoxine sont les suivantes. Africa Milling, Roller Meal and Breakfast, Farfeed Super Dog Meal, Continental Milling, Shabko Milling, Girard Milling, Boussou Milling et Star Milling. Parmi les autres mesures annoncées par le ministère du Commerce extérieur, il y a l'interdiction d'entrée sur le territoire national de la farine de maïs, des marques de fabrique et des commerces incriminés, l'interdiction sur l'ensemble du territoire national de la consommation, la commercialisation et la distribution de la farine de maïs des marques précitées, le retraçage de l'existence de ces produits et leur retrait dans le circuit du commerce national. Le secrétaire général au commerce extérieur, le secrétaire général à l'économie, le directeur général des douanes et accises, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le directeur national de l'hygiène aux frontières, le coordonnateur du SACAV ainsi que le commissaire général de la police congolaise sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de ces mesures, conclut le communiqué.
Jacques-Yves Molima Aouta sur Radio Okapi. Et au Kassai Oriental, ouverture ce samedi en Mbujimayi du forum sino-congolais sur les mines, l'économie et la coopération. C'était en présence du vice-ministre de l'Intérieur et de l'ambassadeur de Chine en RDC Zhao Bin. Organisée par la société minière de Bakwangamiba, ces assises ont pour but d'attirer dans le Grand Kassai les investisseurs chinois et congolais à s'intéresser au secteur des mines, de l'industrie, des infrastructures, du tourisme et de l'agriculture. Des explications à Mbujimayi avec Esther Ndalafina.
Ce forum est un véritable cadre d'échange entre les autorités de l'AMIBA, les investisseurs chinois et congolais. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Grégoire Mouchali, promet d'encadrer les opérateurs économiques dans l'agriculture.
Tous ceux qui ont de l'argent caché, mon ministère ouvre ses portes pour vous accompagner afin que nous puissions reconstruire notre Kassai dans les domaines de l'agriculture.
Le ministre des Mines, Kizito Pakapomba, rassure les investisseurs sur la disponibilité des diverses ressources naturelles.
Dans le secteur des mines, l'or, le diamant, le coltan et bien d'autres minéraux que renferme ce sol nourrissent de grandes ambitions pour la relance économique du pays.
L'ambassadeur de la Chine en RDC a énuméré les réalisations des entreprises chinoises basées dans le Grand Kassai. Zhao Bin souhaite que les investisseurs chinois établissent des partenariats gagnant-gagnant.
Nous espérons que les participants à ce forum puissent bien en profiter pour renforcer la confiance et la compréhension mutuelle.
Signalons que les gouverneurs du Kassai oriental et central, celui du Sankoro et de l'Omami, ont présenté chacun les potentialités susceptibles d'être exploités dans leurs entités. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Restons dans cette province du Kasse-Oriental pour parler de la pose ce samedi de la première pierre pour l'implantation d'une cimenterie dans les territoires de Katanda. La cérémonie a été présidée dans la localité de Kabwe par le ministre de l'Industrie, Louis Watum Kabamba, indique que ce projet est un moteur de développement économique pour le pays. Il va contribuer à la modernisation de l'espace Grand Kassai. Pour l'ambassadeur de Chine, Zhao Binet, ce projet va générer des milliers d'emplois directs et indirects et améliorer les conditions de vie de plusieurs familles. Signalons que le projet sera réalisé en plusieurs étapes et la première consiste à la construction par l'entreprise Wai Samensas de l'unité de 300 000 tonnes de ciment qui sera mise en service en 2026. Entre-temps au Nord Kivu, 350 kg de coltan à destination du Rwanda, intercepté hier par les services de sécurité dans la ville de Goma. Il existerait un circuit mafieux opérant entre les zones occupées par les M23 RDF et le Rwanda et transitant par la ville de Goma, fait savoir le maire de la ville. Il affirme que cette saisie est une preuve de plus que la guerre de l'Est est plutôt un prétexte pour le pillage des ressources économiques de la RDC. On écoute le commissaire supérieur principal Faustin Kapen Kamand dans cet extrait choisi par Chris Mukand.
Nous vous disons que la guerre de l'Est a un fond économique. Voilà les ennemis de la République qui ont quitté la zone ennemie avec les matières premières en transit, ville de Goma pour le Rwanda. Grâce au professionnalisme de l'ANER, mairie de Goma a appréhendé, grâce aussi à un document qui a été mis à notre disposition, le mandat de perquisition, que nous sommes allés au quartier Katoï, avenue Géomètre, chez M. Pascal Baloumé, où nous avons saisi cette colis de coltan que nous allons mettre à la disposition de son Excellence, M. le gouverneur de la province du Nord Kivu, Général-major Peter Chirimwami, qui a une commission ad hoc pour ce genre d'opération. Donc ces gens s'enrichissent, ils viennent ici à Goma en transit pour le Rwanda, vendre pour que le Rwanda ait une santé financière afin qu'ils achètent encore les armes pour nous agresser.
Éducation à présent. La rentrée scolaire est confirmée pour le 2 septembre prochain. Un accord a été trouvé entre les syndicats des enseignants et le gouvernement ce samedi à Bibwa, dans la partie est de Kinshasa. Le gouvernement s'engage à appliquer une partie des accords passés tendant à améliorer les conditions socio-professionnelles des enseignants. Le porte-parole de l'intersyndicale des enseignants, Godefroy Matondo, souligne que les enseignants ne sont pas totalement satisfaits quant à leurs revendications et s'en remettent à la bonne foi du président de la République et du gouvernement souminois. De son côté, après la séance des signatures, la ministre d'État chargée de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, affirme l'engagement de son ministère à maintenir un dialogue permanent avec les bancs syndicales pour le bien-être des enseignants et l'amélioration du système éducatif congolais. On écoute tour à tour la ministre et le porte-parole de l'intersyndicale des enseignants.
Nous réaffirmons notre engagement à maintenir un dialogue régulier et constructif avec le banc syndical pour continuer à œuvrer ensemble pour le bien-être de nos enseignants et l'amélioration de notre système éducatif. Les discussions menées au sein des sous-commissions ont été extrêmement productives. Elles ont mis en lumière des pistes de solutions qui, nous en sommes convaincus, permettront de bâtir un système éducatif plus fort, plus équitable et plus résilient. Nous repartons d'ici avec la conviction renouvelée que grâce à l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, le soutien de son Excellence Madame la Première Ministre et avec la collaboration de toutes les parties prenantes, nous pouvons faire des avancées pour le bien de nos enfants et de notre nation.
L'intersyndicale considère que le gouvernement de la République ferait œuvre utile en disant clairement au président de la République, chef de l'État, que ses enseignants et ses compatriotes ne sont pas satisfaits entièrement car leurs préoccupations sont restés encore sans solution.
Notez que le compromis trouvé est le fruit des 15 jours d'après-échange destinés à évaluer le degré d'exécution des engagements pris précédemment par le gouvernement afin d'améliorer les conditions sociales des enseignants en RDC. Toujours en rapport avec la prochaine rentrée scolaire, la question des embouteillages ici à Kinshasa, qui sont l'une des causes principales des retards pour plusieurs élèves, a été évoquée ce samedi au cours d'une rencontre entre le ministre provincial des Transports, les cadres de plusieurs services de l'État, les associations des chauffeurs, des motocyclistes l'Est, des chargeurs et la police. Bob Amisso affirme avoir sensibilisé ses interlocuteurs pour que le trafic soit fluide lors de la rentrée des classes. Pour sa part, le gouverneur de la ville de Kinshasa promet une sensibilisation sur le nouveau code de la route. On écoute tour à tour le ministre provincial des Transports, Bob Amisso, et le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, commandant de la police.
Il y a eu sensibilisation et nous osons croire que le message va passer, que à partir de lundi, il y aura une fluidité au niveau des transports.
Il y a des voies que nous allons dédier en une période en sens unique, surtout à des heures de pointe. Et il y en a d'autres qui vont prendre ça en charge comme voie de retour. Alors nous avons pensé d'abord réfléchir sur l'avenir Ngouma et l'avenir du tourisme dans un premier temps. C'est là où nous allons commencer. Nous allons prendre la gestion de toutes les intersections qui se trouvent à l'intérieur des transports pour permettre la fluidité. La police va jouer son rôle traditionnel, c'est-à-dire elle va aider à la régulation du trafic routier pendant cette période. Il y a une sensibilisation sur les nouveaux codes de la route qui est prévu. Deux semaines avant, tout le monde sera sensibilisé. Et nous serons donc en action au même moment que nous sommes en train de sensibiliser.
Sachez que le ministre des Transports de Kinshasa a mis en place une commission afin d'étudier les modalités d'application de toutes les dispositions retenues. C'est un dossier réalisé par Alain Irung Mushinj. Santé. L'épidémie de monkeypox ou variole des singes sévit aussi dans la province d'Ikwilou. C'est le gouverneur intérimaire Félicien Kiwai Mwadi qui l'a déclaré ce samedi dans la ville de Kikwit devant les professionnels des médias. Selon lui, cette province enregistre déjà au total 34 cas, dont 3 dans la prison centrale de Kikwit et 4 décès. Il précise aussi qu'au moins 7 zones de santé sur les 24 que compte la province sont touchées par cette épidémie. Il invite la population au respect des mesures d'hygiène pour se protéger contre cette maladie contagieuse. On écoute Félicien Kiwai Mwadi dans cet extrait choisi par Alain Irungmushinji.
Notre province du Kwilu n'est pas épargnée. Actuellement et à ce jour, 7 zones de santé sur 24 sont touchées, parmi lesquelles nous avons la zone rurale de Bakata avec un cas, la zone urbano-rurale de Bandundu avec 3 cas, dont un décès, la zone de Djuma, la plus touchée avec 12 cas, dont des décès, et parmi ces décès, on note un infirmier soignant. Quatrième zone rurale de Gungu avec un cas. Cinquième zone rurale d'Ipanu avec un cas. Sixième zone urbano Kikwit Nord avec 6 cas, dont 3 cas à la prison centrale. Septième zone Mokala, 10 cas, dont un décès. Total de la province du Kwilu, nous enregistrons 34 cas notifiés avec 4 décès.
Par ailleurs, dans la province de la Tchopo, toutes les 27 aires de santé de la zone de santé de Yahuma, dans les territoires portant le même nom, en aval du fleuve Congo, sont touchées par cette épidémie de monkeypox. Confinée d'abord dans quelques localités, cette maladie s'est propagée rapidement dans la contrée, provoquant une situation d'urgence sanitaire dans cette entité. Le médecin-chef des zones de santé de Yahuma plaide pour un appui global en vue non seulement de la prise en charge des malades, mais aussi pour couper la chaîne de transmission. Le point qui s'en gagne avec Jacques Mkonkoli.
Au regard de l'ampleur du monkeypox dans son entité sanitaire, le médecin-chef des zones de santé de Yahuma se dit inquiet. Le docteur Freddy Lissassi déplore l'insuffisance des moyens disponibles pour faire face à cette épidémie de monkeypox. Les médicaments fournis par l'OMS récemment leur ont permis d'assurer les soins des malades, mais les défis sont énormes, déclare-t-il. Selon lui, il faut beaucoup de moyens pour une prise en charge efficace des malades, notamment les médicaments, la mobilité et bien entendu les finances, pour la motivation du personnel de santé. Faute de tous ces moyens, la capacité opérationnelle est réduite. Difficile donc de traiter les malades et de contenir la maladie. Voilà pourquoi il lance un appel aux autorités sanitaires et aux partenaires de pouvoir intervenir en urgence afin de renforcer la riposte contre les monkeypox dans cette contrée. Sinon, dit le médecin chef de zone, une catastrophe sanitaire majeure sera inévitable. Dans l'attente de cet appui, il convie la population de Yahuma à observer relever les mesures d'hygiène et de prévention pour limiter la propagation du virus. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Nous apprenons aussi qu'un cas suspect de l'épidémie de monkeypox est enregistré dans la zone de santé de Moba, province du Tanganyika. C'est confié ce samedi à la Radio Okapi. Le médecin chef des zones de santé de Moba précise qu'il s'agit d'un jeune homme de 22 ans qui a des éruptions sur son corps. Docteur Barwini Moma annonce avoir déjà envoyé des échantillons au grand labo de Lubumbashi. Il est joint par Paul Munanga.
À Moba, réellement, il y a un cas suspect de monkeypox. Ce cas a été découvert dans l'aire de santé de Regeza, où on a déjà prélevé, et sinon nous attendons les résultats au grand labo. Là, nous allons demander à toute la communauté d'être vigilant par rapport à cette pathologie. Et je pense que la surveillance doit être vraiment à son niveau. Et si quelqu'un constate les éruptions, si un enfant ou bien une grande personne se présente avec les éruptions cutanées, directement il faut l'envoyer à une structure de prise en charge, puisque c'est là où on va voir les caractéristiques des lésions élémentaires pour nous dire que ça c'est telle ou telle autre pathologie. Et tous les autres personnels de santé, soyons vigilants par rapport à la surveillance de toutes ces pathologies-là. Par rapport à la prise en charge, on s'était dit, si il y a un tel cas, vraiment la prise en charge à notre niveau, même les examens à notre niveau, doit se faire d'abord gratuitement. On doit prélever en attendant les résultats finaux qui viendra du grand labo.
Actualité internationale.
Le Mpox continue de se propager en Côte d'Ivoire. À ce jour, 32 cas ont été confirmés, dont un décès. Des infections recensées à Abidjan et dans 14 autres districts sanitaires à l'intérieur du pays. Mais la situation est sous contrôle. Nous sommes sur la bonne voie pour éradiquer la maladie, assure le ministre ivoirien de la Santé lors d'une conférence de presse ce samedi. Et puis, une attaque s'est produite dans le nord du Mali ce dimanche, près de la frontière algérienne, dans le secteur des Tinzawatène. Au moins 15 civils, dont de nombreux enfants, ont été tués par des frappes de drones, selon des sources concordantes.
L'invité.
Des leaders communautaires du territoire de Djougouani-Touri sont sensibilisés depuis vendredi pour apporter leur contribution dans l'exécution du programme de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC, STAR-Est en sigle, un programme qui bénéficie de l'appui financier de la Banque mondiale et qui vise à améliorer l'accès aux infrastructures sociales de base, la résilience communautaire et la gouvernance locale. Quelle est la particularité de ce programme? Steve Singida, le coordonnateur de STAR-Est, s'entretient avec Martial Kiza Biamongo.
Steve Singida, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Martial.
Pour commencer, c'est quoi le programme STAR-Est?
Le projet stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC est un projet du gouvernement congolais conçu de par les besoins de ces provinces bénéficiaires et qui, ces jours, vient appuyer les efforts de gouvernements provinciaux dans l'élan de la stabilisation, de la pacification, mais aussi du relèvement de leurs communautés longtemps meurtries.
Alors, pour la province de l'Ituri, c'est quoi les chronogrammes de ces projets et quels sont les territoires concernés?
Donc le projet STAR-Est vient en appui de par les 5 composantes qui les constituent, notamment la première composante sur la stabilisation qui permettra au projet d'aider les entités territoriales, le chefferie secteur à disposer des plans locaux de développement mais aussi à construire des infrastructures socio-communautaires de base, des écoles, des centres de santé, des addictions d'eau et bien d'autres infrastructures. Dans sa composante 2 sur la réintégration communautaire, le projet STAR-Est va devoir lancer des travaux en timon, la réhabilitation des routes de desserte agricole sur plus ou moins 1125 km sur l'ensemble de 3 provinces, ce qui veut dire que l'Ituri pourra bénéficier de plus ou moins 375 km de routes. À ce jour, pour l'année 2024, notre plan de travail annuel prévoit 2 axes routiers. L'axe en territoire d'Irumu, allant de Kombokabo, en passant par Songolo, Bavi, pour chiter sur Tchekele, sur une linéaire de plus ou moins 49 km. Et le deuxième axe est celui de Katoto, Baranganza, Masumbuko, Blukwa, sur plus ou moins 50 km, qui vont bénéficier des travaux en procédure d'urgence avant décembre de cette année.
C'est... Alors rapidement, pourquoi avoir choisi les axes routiers pour ce qui concerne les territoires de Ndjougou, en allant des centrales Solenyama, Katoto, Paranganza, Masumbuko pour chuter à Sirblukwa? Les conditions sécuritaires sont-elles favorables pour l'exécution de ces travaux?
En fait, le gouvernement provincial sous le gouverneur Son Excellence Johnny Luboya Nkashama a abattu un travail remarquable dans cette zone. Aujourd'hui, l'axe Baemanor, Walendu Tati, Baema Baguru, allant jusque sur Walendu Piti. Ces zones que tu as citées, ce sont des zones où l'élan de stabilisation a connu de grandes avancées. Aujourd'hui, ces populations se fréquentent, cet axe routier est réouvert. Aujourd'hui, les populations peuvent partir de Blukwa jusqu'à Bunia. Et nous avons voulu mettre à profit les efforts du gouvernement provincial en rendant cette route comme l'un des axes qui pourra désenclaver toutes ces entités jusqu'à arriver à Walendu Piti, parce que cette route va jusqu'à Kwandroma. Et l'ouvrir jusqu'à Blukwa permet l'accessibilité aux partenaires humanitaires qui travaillent dans la zone, permet l'évacuation de tous les produits agricoles que la zone commence déjà à améliorer, à produire, mais aussi permettre aux populations riveraines de bénéficier de revenus supplémentaires en termes d'emploi en ayant pris part dans ces travaux en Timo, lesquels travaux pourra employer 50% des femmes.
Alors Steve Singida, certains vous rétroqueront que des programmes similaires sont déjà en œuvre à Ditouri, qui portent aussi bien sûr les mêmes domaines d'intervention. Par exemple Starec, quelle est la particularité aussi des Star Est?
En fait, le projet Star Est a toute sa particularité du fait que c'est pour la première fois que la Banque mondiale expérimente une approche décentralisée de mise en œuvre de projets qu'il finance. Ça veut dire que ce projet n'a pas un ancrage à Kinshasa. Le projet Star Est est un projet beaucoup plus global. Starec est un projet spécifique sur le désarmement, alors que nous, stabilisation et relèvement, nous allons financer le PDDRCS. Nous venons de signer un protocole d'accord à Goma le 6 août passé, où le PDDRCS va bénéficier de l'appui du projet Star Est en termes de financement pour son fonctionnement en tant que structure, mais aussi le projet Star Est prendra en charge les ex-combattants qui sortiront des groupes armés à travers le processus DDRCS et que ces ex-combattants trouveront le projet en phase d'exécution dans leur communauté et seront pris en charge pour les débits de réinsertion et leur intégration. Voilà le caractère beaucoup plus global du projet Star Est qui non seulement va appuyer les institutions provinciales, va appuyer nos communautés, va développer des infrastructures routières, des infrastructures socio-communautaires de base, mais aussi va permettre au PDDRCS de matérialiser son plan opérationnel.
Steve Singida, merci.
Je vous en prie.
Notre invité répond aux questions de Martial Kizabiamungu. Et c'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Rung et mis en onde par Pierre Diassinois. Présentation de Grâce Amzati Massanzi. Merci de l'avoir écouté.